إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, chers auditeurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde la réussite et vous bénisse. Nous poursuivons l'étude du livre intitulé « L'exposé de la Sunna » de l'imam al-Barbahari, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et nous nous sommes arrêtés à sa parole, le fondement sur lequel est établi al-Jama'a sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En résumé, dans le cours précédent, nous avons vu qu'il est obligatoire de suivre la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de se suffire à celle-ci. Il faut absolument connaître leurs paroles et leurs actions car ce sont les meilleurs de cette communauté. Également, il faut connaître les choses sur lesquelles ils furent unanimes et ce sur quoi ils ont divergé. Ensuite, l'auteur nous dit, rahmahullah, qu'Allah leur fasse miséricorde à tous. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui est connu chez les pieux prédécesseurs est l'utilisation du terme « qu'Allah les agrée » lorsqu'il s'agit des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est une chose connue depuis longtemps. Néanmoins, il y a une question qui se pose. Est-il permis d'utiliser le terme « qu'Allah lui fasse miséricorde » lorsqu'on parle d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la réponse est oui. Cependant, ceci n'est pas ce qui est connu, car on dit qu'Allah l'agrée pour un compagnon et qu'Allah lui fasse miséricorde pour celui qui est venu après. Malgré ça, il n'y a pas de mal à dire qu'Allah l'agrée pour quelqu'un qui est venu après les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le terme « qu'Allah l'agrée » est une invocation. Par conséquent, il n'y a aucun mal à dire « qu'Allah l'agrée » lorsqu'on parle d'un tabi'i par exemple. Mais il est préférable de suivre ce qui était connu chez les salafus salih, c'est-à-dire le terme « qu'Allah l'agrée pour un compagnon » et « qu'Allah lui fasse miséricorde pour celui qui est venu après ». Mais nous n'allons pas jusqu'à dire que cela est obligatoire et que celui qui contredit cela a commis un péché. Néanmoins, il est préférable de suivre ce qui est connu chez les pieux prédécesseurs. Ensuite, nous allons mentionner quelques sujets similaires à celui-ci. Le premier sujet, est-il permis de dire des invocations spécifiques pour certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à en devenir une habitude, comme le fait de dire qu'Allah anoblisse son visage lorsqu'on parle de Ali ibn Abi Talib, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. La réponse à cette question est que ceci est interdit, car cette parole est devenue l'emblème particulier de certains compagnons. Alors que si on médite sur le sujet, on trouvera que celui qui est censé mériter le plus cette parole en réalité est Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu. Ensuite, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Ensuite, Uthman ibn Affan, radiallahu anhum. Car ils ont plus de mérite que Ali ibn Abi Talib, qu'Allah les agrée. Le deuxième sujet, est-il permis de dire, alayhi salam, pour certains proches, du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La réponse est que ceci n'est pas permis. L'éminent savant, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, fut questionné concernant celui qui dit alayhi salam lorsqu'il évoque certains proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il répondit, rahimahullah, il y a dans cela une ressemblance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceci est une innovation. Fin de citation. Car le terme alayhi salam est l'emblème du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que des autres prophètes. Il n'est donc pas permis d'agir de la sorte. Donc en résumé, il faut toujours se conformer à la voix des pieux prédécesseurs. Et leur voix dans ce sujet est de dire alayhi salam pour les prophètes, qu'Allah les agrée pour les compagnons et qu'Allah leur fasse miséricorde pour ceux qui sont venus après. Quant aux personnes encore vivantes, il n'y a pas de mal à dire à leur sujet qu'Allah leur fasse miséricorde. Même si les gens ont pris comme habitude de dire qu'Allah le préserve pour le vivant et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde pour le mort. Néanmoins, ceci n'est basé sur aucune preuve. Ensuite, l'auteur nous dit, rahimahullah, ils sont ahl sunna wal jama'a, c'est-à-dire les compagnons. Précédemment, nous avons déjà vu la définition de la sunna ainsi que celle de la jama'a. Mais quelqu'un pourrait se demander quel est le sens de ahl sunna wal jama'a et qui sont-ils? La réponse à cette question est que ahl sunna wal jama'a sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis avec bienfaisance, et ceci jusqu'au jour dernier. On les appelle Ahl Sunna wal Jama'a, c'est-à-dire les gens de la Sunna et du groupe. Ensuite, l'auteur nous dit, rahimahullah, ainsi, celui qui ne prend pas d'eux s'est égaré et a innové. En effet, quiconque délaisse la voix des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est égaré et a innové. Même s'il a beaucoup de science, Abu Qasim al-Asbahani dit dans son livre intitulé Al-Hujja, quiconque contredit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un égaré, même s'il a beaucoup de science. Fin de citation. Par conséquent, même si la personne a atteint un haut degré dans la science, il lui est obligatoire de revenir à la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'imam al-Barbahari rahimahullah nous dit « Et toute innovation est un égarement, et l'égarement et ses adeptes sont en enfer. » Désormais, nous allons évoquer certains sujets concernant l'innovation. Car nous entendons souvent les savants de la Sunna dire « ceci est une innovation » ou bien « cet homme est un innovateur ». De ce fait, il est essentiel de savoir qu'est-ce que l'innovation. Il faut savoir que l'innovation dans la langue arabe est l'établissement d'une chose qui n'a pas de semblable. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Badi'u samawati wal ard » Créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Et le terme « bédi'a » dans ce verset désigne celui qui crée sans modèle précédent. Également, nous avons la parole « قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ Dis, je ne suis pas le premier des messagers. C'est-à-dire, dis aux polythéistes, aux prophètes, qui te démentent et qui renient ce avec quoi tu es venu, que tu n'es pas le premier à être venu à son peuple, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec un message, et que tu as certes été précédé par beaucoup de prophètes et de messagers qui ont transmis à leur peuple le livre et le message. Donc ceci est le sens de l'innovation d'un point de vue linguistique. Quant à son sens d'un point de vue religieux, c'est une voie inventée dans la religion qui ressemble à la voie légiférée, dont le but et pour ceux qui l'empruntent, l'exagération dans l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Lorsque les savants ont dit « une voie inventée dans la religion », c'est pour exclure les choses mondaines qui sont nouvelles et qui n'ont pas de semblable ni de précédent, telles que la voiture, qui n'existait pas par le passé. Mais ces choses nouvelles ne sont pas interdites. C'est pour cela que les savants ont utilisé le terme « dans la religion », c'est-à-dire dans les adorations, dans la croyance et dans les paroles légiférées. Quant à leurs paroles, qui ressemblent à la voix légiférée, c'est-à-dire que ces adeptes inventent des adorations et veulent imiter les adorations qui sont venues dans le Coran et la Sunna. Ils veulent rajouter et exagérer dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prenons l'exemple du Mawlid, qui est le fait de célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les adeptes du Mawlid l'ont inventé, alors qu'il n'existait pas à l'époque des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à l'époque des trois premières générations de l'islam. Par conséquent, c'est une chose inventée. Et ses adeptes veulent imiter les adorations légiférées, car ils veulent être récompensés pour avoir célébré le Mawlid. Tout comme lorsqu'ils font de bonnes actions, C'est pour cela que tu les vois persister dans cela. Donc si tu as compris tout ce qui a précédé, alors sache que toutes les innovations sont égarements. Aucune d'entre elles est une guidée. Toutes les innovations sont des péchés. Et il n'y en a aucune pour laquelle on est récompensé. Et il n'y en a aucune pour laquelle on est récompensé. Ils sont toutes mauvaises. C'est pour cette raison que dans le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que dans les paroles des savants, on trouve le blâme et la mise en garde de l'innovation ainsi que leurs adeptes. Parmi ces preuves, on retrouve le verset 153 de Sourate Al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Et ne suivez pas les sentiers qui vous écarteraient de la voie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le grand exégète Mujahid, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: ce qui est voulu par les voies, ce sont les innovations et les ambiguïtés. Également, nous retrouvons la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Lorsque tu vois ce qui raille nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils parlent d'autre chose. Et les savants de la Sunna sont d'avis que ce verset englobe les gens de l'innovation et le fait de s'asseoir avec eux. Et parmi les preuves de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons le hadith rapporté par l'imam Muslim, d'après Jabir ibn Abdillah, qu'Allah l'agré, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait un sermon, disait: le meilleur discours et certes le livre d'Allah. Et la meilleure voie est celle de Mohammed. Les pires des choses sont les choses nouvelles, et toute innovation est égarement. Méditons sur cette parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire dans ses sermons et ses exhortations: et toute innovation est égarement. Il n'a exclu aucune innovation, mais il a plutôt jugé toutes les innovations dans la religion comme étant un égarement. L'innovation est un égarement car la sunna est la vérité, et son contraire qui est l'innovation est un égarement. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit: فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Qu'y a-t-il en dehors de la vérité, sinon l'égarement? Ainsi, si nous savons que la sunna est la vérité, tout ce qui contredit la sunna est un égarement. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé toute innovation égarement. Également, nous avons le hadith rapporté par l'imam Ahmed, ainsi que l'imam Abu Daoud et l'imam Tirmidhi. D'après l'Irbad, Ibn Sariyah, qu'Allah l'agré, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et prenez garde aux choses nouvelles en religion, car toute chose nouvelle est innovation, et toute innovation est égarement. Et nous avons également le hadith connu, rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, d'après Umm Abdillah, Aisha, radiallahu anhuma, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque instaure dans notre ordre ce qui n'en fait pas partie sera alors rejeté. Donc toutes ces preuves nous indiquent que toutes les innovations en religion sont mauvaises et rejetées. Et l'imam al-Shatibi, rahmahullah, dans son livre intitulé « Al-I'tisam », a mentionné que les pieux prédécesseurs sont unanimes quant au blâme et à l'interdiction de l'innovation. Après cela, nous allons parler du jugement de l'innovateur. Quel est son jugement ? Il faut savoir que les gens ont divergé quant au jugement de l'innovateur en trois avis. Le premier avis est que tout innovateur est mécréant. Que son innovation soit dans la croyance ou dans les adorations. Selon eux, dans tous les cas, l'innovateur a mécru. L'éminent savant Cheikhoul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit à propos de cette parole, et ceci est l'avis des Khawarij et des Mu'tazila, ainsi que de la secte Al-Jahmiyya. Puis il dit, et nous retrouvons cela chez certains suiveurs des quatre imams. Donc ceci est le premier avis. Le deuxième avis est qu'il faut regarder dans quel domaine l'innovateur a innové. Si l'innovation est dans le domaine de la croyance, selon cet avis, il aura mécru. Et si elle est dans le domaine des adorations, alors dans ce cas-là, il n'aura pas mécru. Le grand savant Ibn Abi al-Iz, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit concernant cet avis, ceci est l'avis d'un groupe parmi Ahlul Kalam, les gens du Kalam, et un groupe parmi les gens du Hadith et de la jurisprudence. Et pour finir, nous avons le troisième avis, qui est l'avis des gens de la Sunna. Et selon cet avis, il faut regarder le type de l'innovation. Car l'innovation se divise en deux catégories. Nous avons premièrement l'innovation qui fait sortir de la personne de l'islam. Et deuxièmement, l'innovation qui ne fait pas sortir la personne de l'islam. Et l'innovation qui fait sortir la personne de l'islam est de trois sortes. La première est celle qui est une parole, comme le fait d'invoquer les morts. La deuxième est celle qui est une action avec les membres, comme se prosterner pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que la troisième est celle qui est une croyance, telle que renier les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou encore renier la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'innovation qui ne fait pas sortir de l'islam est de trois sortes, exactement comme celle qui fait sortir de l'islam. La première est celle qui est une parole, comme le fait de dire « La ilaha illallah » lorsqu'on transporte le mort lors de la janaza. La deuxième sorte est celle qui est une action avec les membres, comme construire un édifice sur une tombe. Comme vous le savez, certains vont construire des mausolées ou des mosquées sur les tombes. Et ici, nous parlons du simple fait de construire un édifice et non les pratiques qui y sont faites, car cela a un autre jugement. La troisième sorte, celle qui est une croyance, comme le fait de sortir contre le gouverneur. Ainsi, en résumé, toute innovation en religion se divise en trois catégories, parole, action et croyance. Ensuite, l'auteur nous dit, rahmahullah, et l'égarement et ses adeptes sont en enfer. C'est-à-dire que les adeptes des innovations sont en enfer, car c'est le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tout égarement est en enfer, comme l'a mentionné l'imam As-San'ani dans son livre intitulé « Subul Salam ». Wallahu ta'ala a'la وأعلم.